on vous laissait aller, on vivrait dans une dompe. C'est ça mon hypothèse.
On vivrait dans un environnement qui nous convient à nous, mais pas nécessairement aux autres.
Mais tu penses pas qu'à un moment donné, ça finirait par te gosser? Parce que j'ai l'impression aussi que ça fait partie des frustrations, c'est que les filles ont l'impression que vous en bénéficiez aussi. Vous aimez ça, vivre dans une belle maison avec des repas puis des salles de bain propres, non?
C'est vrai, oui.
88-971-1021 par texto, ça entre. Ben trop peur que quelqu'un se cache dans le bain, moi le rideau reste ouvert.
Bon point.
Fait que Isabelle, bon Isabelle ici, qui a un argument que tu pourras peut-être présenter à ta copine Mathias.
Prochaine fois que j'oublie de fermer le rideau, je vais le sortir.
Quelqu'un dit chez nous, c'est fermer les armoires qui est le problème.
Ah, moi aussi, j'ai ce problème-là.
Tu les laisses ouvertes ou c'est elle?
Je les laisse ouvertes, puis elle me rappelle, Mathias, faut que tu fermes les armoires.
Mais tu laisses tout ouvert, toi.
Ouais,
c'est
exact.
Ça que
Alain, 88-971-1021, un élément à prendre en compte aussi, c'est que souvent les femmes sont pointilleuses.
Oui.
Par exemple, la façon de remplir la vaisselle. Certaines tâches n'existent juste pas dans les listes obligatoires pour les hommes. Des fois, il y a un certain lâcher-prise qui s'impose. Je pense que tout est dans la communication.
J'aime ça quand tu donnes des conseils.
Oui, moi la communication, c'est la règle numéro 1. 88-971-1021, continuez d'écrire et gardez le numéro pas trop loin aussi pour réagir au retour parce que j'ai l'impression que ça va faire réagir. C'est quoi vos trucs pour économiser sur vos voyages? Vous pouvez déjà commencer à nous écrire puis on pourra vérifier est-ce que c'est des vrais trucs ou est-ce que vous avez l'impression que ça aide puis finalement, ben vous sauvez pas une scène puis peut-être même au contraire. On parle avec Daniel, fou de voyage. Comment vraiment économiser sur ses voyages? 88-971-1021 texto, 15h01 dans le retour à Boulevard.
Le retour.
15h06 dans le retour à Boulevard 102.1. Antonine Iacarini, Mathias Turcotte, Max Lagouche avec vous jusqu'à 18h. Et là, on a continué pendant la pause de parler de charge mentale, notamment le débat sur les rideaux de douche. Est-ce qu'on veut ça ouvert ou fermé? Et là, est venu le sujet de faire le lit. Est revenu, devrais-je dire, le sujet de faire le lit. Et puis moi, l'argument que j'aime bien sortir, c'est que c'est bon pour les acariens de ne pas faire le lit.
T'aères ton lit, toi.
C'est ça. Mais c'est juste parce que je suis lâche, mais ça c'est mieux de dire c'est pour les acariens.
As-tu essayé de laver tes draps?
Ben là, c'est ça.
Là, ça, c'est un bon truc aussi pour les acariens.
Mais là, c'est parce que Mathias a dit que lui, chez lui, à la maison... C'était obligatoire de laver les draps une fois par semaine.
Chaque semaine, oui. Ma blonde a instauré ça dans son nouveau régime là, depuis que j'habite avec.
Son régime.
Non, son régime autoritaire. Pas...
Le régime de terreur de la blonde
non,
de
Mathias. C'est chaque semaine. Ouais. Pour elle, c'est impensable de dormir dans des draps qui ne sont pas lavés chaque
semaine.
C'est tellement
le fun de dormir dans des draps propres.
Oui, mais c'est parce que j'ai déjà assez de laver mon linge, là.
Ben, c'est parce que c'est pas plus long de rajouter les draps dans la brassée.
Ben non, mais c'est parce que j'ai déjà des grosses brassées. Mais... Je peux pas rajouter mes affaires en plus.
Tu laves-tu ton linge aux semaines?
Ben oui.
À chaque fois,
mais tu dois pas avoir des si grosses brassées que ça d'abord.
Ouais, j'avoue que je lave plus peut-être aux deux. Ben en fait, ça dépend. Parce que j'ai pas beaucoup de shorts.
Fait que
l'été puis l'hiver, c'est différent. 88-971-1021, au combien de temps vous lavez vos draps?
Ouais, une semaine. On vous jugera pas, on va pas nommer les noms, mais je suis très intéressée.
Ben moi, ce que je juge, c'est aux semaines. Là.
Ben moi, c'est aux semaines chez nous.
OK.
Puis les têtes d'oreiller, c'est pas rare que je les change en milieu de semaine.
Mais pourquoi?
En milieu de semaine, okay, tu gardes même pas tes têtes d'oreiller?
Non, ça arrive souvent que je change mes têtes parce que j'aime ça qu'ils sentent le lavage frais, puis c'est meilleur pour la peau.
Fait que t'en gardes en réserve pour pouvoir faire une rotation.
J'ai une autre joke des têtes d'oreiller dans ma table de nuit.
OK.
Ils sont tout prêts.
Bon, mais...
Jugez-moi pas.
Maintenant, puis moi, je trouve que vous n'êtes pas très respectueux de l'environnement aussi dans tout ça, là.
Il y a une tête plus dans la brasse.
Ça vous coûte cher d'électricité. Parlant de coûter cher, les voyages, hein, c'est rare. C'est souvent pas donné. Pour certains, malheureusement, cette année, ça rentre pas nécessairement dans le budget. Et pour pas mal tout le monde, quand tu veux y aller en voyage, tu cherches des façons d'économiser. Puis des façons d'économiser, il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a des façons qu'on pense que c'est possible d'économiser, que finalement, c'est pas vrai tant que ça. Pour parler de tout ça, Daniel, fou de voyage, qui est avec nous en studio. Salut, Daniel.
Salut, ça va bien?
Yeah, ça va bien, toi?
Oui, absolument.
Niveau lavage de draps, ton bar, on se situe où?
Moi, je préfère dormir à l'hôtel. Comme ça, c'est plus simple. J'ai même pas besoin de laver mes draps, tu vois.
Long jase. Ouais, c'est ça. Économiser sur ces voyages, je veux dire, de nos jours, il y en a beaucoup qui n'ont même plus les moyens de voyager. Si tu le fais, J'imagine que tout le monde cherche ces petites techniques-là.
Oui, absolument. Ben, moi, mon premier truc, je vous dirais, c'est contacter votre agent de voyage parce que lui, il y en a des bons trucs pour vous faire économiser. Puis c'est mon devoir aussi. Moi, je vais vous faire payer le moins cher possible. Puis on a souvent à tort qu'on pense que ça coûte très cher, là, faire affaire avec un agent de voyage. Puis honnêtement, pas vraiment, parce que si, mettons, on fait un forfait à la carte, comme vraiment hôtel, tout séparé, donc là, à ce moment-là, il y a des frais, mais c'est des frais très minimes par rapport à ce que je vous fais économiser en bout de ligne.
D'ailleurs, tu nous parles des forfaits, de réserver le vol et l'hôtel ensemble. On dirait que moi, ce que j'entends beaucoup, c'est des gens dire hey, « moi, j'économise en réservant mon vol puis mon hôtel à part ».
Oui, exact. C'est... Ça, c'est un bon truc. C'est vraiment prendre des forfaits, donc vol-hôtel. C'est que souvent, quand tu prends juste un vol tout seul, c'est économique basique. Là, tu vas voir, justement, toi, tu vas sur les sites de comparaison en ligne, j'imagine, comme Google Flight, un peu ces sites-là, un peu comme les hôtels, là, j'imagine, tu sais, Hotwire, tu parlais tout à l'heure. Bien, c'est des sites de comparaison. À ce moment-là, tu vas voir l'économique basique, donc le moins cher. C'est vrai que c'est moins cher, mais tu n'as pas les bagages inclus, t'as pas, t'as vraiment, ça vient tout nu. Donc là, si tu ajoutes les bagages, on est à 100-150 $ de plus. Fait que dans le fond, avec un forfait, souvent on a les bagages inclus. Donc t'as des meilleures places souvent dans l'avion aussi. T'es pas en économie basique, donc ça a beaucoup d'avantages. Puis avec l'hôtel, tu la payes beaucoup moins cher parce que eux, ils vont acheter des lots, le grossiste. Donc c'est ce qui nous fait économiser en bout de ligne.
Il y a un de tes points aussi, c'est de dire, hey, attention aux économies de bout de chandelle. Des fois, pour une couple de piastres, ça vaut peut-être pas la peine de se compliquer la vie au bout, là.
Effectivement. Comme on parlait lors de ma première chronique, là, des correspondances autonomes. Ça, c'est une économie qui peut des fois te faire épargner justement 50-100 $. Mais si tu manques ton vol, ben après ça, ça va te coûter 800 $ de plus. Donc, regardez le prix total en bout de ligne là, du voyage et non juste d'un segment, d'un aspect comme justement le vol tout seul. Il faut pas regarder ça, il faut regarder le prix total. Il y a d'autres pièges aussi, souvent on va regarder, mettons, l'aéroport le moins cher. Mais si ton aéroport est plus éloigné, bien là, tu as plus de Uber à prendre, tu as plus de transport terrestre, donc ça va te coûter plus cher. Le troisième pliage, c'est les sièges trop basiques. Souvent, justement, l'économie basique, bien là, on ne sélectionne pas nos sièges. Donc, si on veut sélectionner nos sièges 24 heures avant, bien là, on a encore des frais. C'est toujours les frais additionnels qu'on a à payer.
C'est intéressant le point où tu parlais des Uber, de l'aéroport plus loin, même que l'aéroport de Québec, si on a fait un axe de communication, oui. De dire, oui, regarde, tu regardes souvent les prix, puis là, tu compares vol de Québec, vol de Montréal, puis là, tu as peut-être tendance à sauter sur le vol de Montréal parce qu'il est un peu moins cher. OK, fine. Là, peut-être que ça t'ajoute,
ben, premièrement, un stationnement pour ton auto.
Le stationnement à Montréal, la route pour te rendre à Montréal, le gaz.
L'hôtel.
Peut-être même une nuit d'hôtel
exact.
À Montréal. Mm-hmm. Puis on est niaiseux des fois, on n'a pas de temps. On regarde, puis OK, ah oui, hey, mettons 100 $ moins cher par personne à Montréal. Mais si tu fais le calcul total, ça finit par te coûter plus cher en plus de te donner plus de troubles alors que tu pourrais décoller de Québec. C'est une erreur que les gens font souvent.
Oui, effectivement. Puis même le stationnement, on parlait, tu sais, à Montréal, c'est très, très cher, le stationnement. Là, à Québec, ça coûte rien. Puis justement, moi, j'ai des prix exclusifs. Donc, tu sais, pour 71 $, mettons, par semaine à l'extérieur ou 119 $ à l'intérieur, ça vaut vraiment la peine partir de Québec. Tu sais, mettons, Montréal, ça va être 250 $ le stationnement par semaine. Donc, encore là, c'est ça l'économie. Donc, toujours regarder le prix global et non juste le prix du voyage en tant que tel.
La culture du dernière minute.
Oui.
Qu'on comprend pas tout, puis c'est drôle parce que toi, t'es plus spécialisé, on s'entend, dans les voyages à l'international, plus loin que, mettons, Montréal. Moi, je suis tout le temps à Montréal, je vais voir des shows, puis on dirait que je le sais jamais. Je vais tout le temps au feeling de me dire, ouais, peut-être que je pourrais attendre dernière minute puis économiser. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je pourrais réserver des mois à l'avance en pensant économiser, des semaines d'avance. C'est quoi le bon timing? Ça peut-tu marcher le dernière minute ou c'est trop un grand risque?
À mon avis, c'est trop un grand risque. Plus on réserve tôt, mieux c'est. Comme là, tu dis, quand la programmation, mettons, des festivals sort, là, les prix grimpent. Donc, essayez le plus tôt possible, justement. Là, tu sais, Oceaga, environ les dates, bien, tu peux déjà réserver ton hôtel. Je le sais que c'est comme très tôt, mais souvent, il y a des options qui te permettent d'annuler comme 24 heures avant le départ. Donc, ça donne une tranquillité d'esprit vraiment comme avantageuse, là, puis tu vas épargner beaucoup.
On a un auditeur qui donne son truc. Aller souvent au même hôtel pour le travail, amasser des points de
oui,
la chaîne d'hôtels pour payer des vacances.
Mm-hmm. Effectivement.
Le truc ultime, selon toi, puis je trouve ça intéressant parce que on connaît, il y en a un des deux, tu parles de la période hors saison. Ça,
ouais.
Je veux dire, c'est la base.
Ouais.
Mais tu as aussi le partir en milieu de semaine, que
oui.
Ça, c'est une autre affaire que je savais pas si c'était un mythe ou une réalité, le fameux partir en milieu de semaine.
Partir un mardi, c'est toujours beaucoup moins cher. C'est la journée la moins chère, c'est le mardi. Et je vous dirais que c'est ça, tout ce qui est dans la semaine, parce que tout le monde veut partir soit un vendredi, samedi, dimanche. Souvent, pour les enfants, c'est plus simple. Pour les vacances, au travail, c'est plus simple. Donc, tout est plus simple. Mais honnêtement, vous pouvez épargner là, de 500 à 1000 $ des fois là, par personne. Ça vaut vraiment la peine de partir en milieu de semaine.
Bon truc.
Mm-hmm. Oui, vraiment. Y a une question qui revient souvent, puis je vois souvent passer des commentaires là-dessus, puis on dirait que ça aussi, c'est un peu controversé, puis le monde ne sait pas trop c'est quoi la meilleure technique. Quand tu pars dans un autre pays où on ne paye pas en argent canadien, là,
oui.
C'est quoi la meilleure technique? C'est-tu de garder ta carte de crédit puis de payer sans faire la conversion? C'est-tu de te ramasser du cash de cette place-là avant de partir? Aujourd'hui, en 2026, c'est quoi la chose à faire?
La carte de crédit, c'est toujours la façon la plus simple, puis aussi la plus économique parce que, dans le fond, les frais sont beaucoup moins élevés. Donc, la carte de crédit est winner, mais ils ne prennent pas toujours la carte de crédit partout. C'est ça l'affaire, c'est que les petits commerces locaux, ou même souvent, comme moi, en Thaïlande, que j'avais été, là, dans les... Dans la nourriture de rue et tout, là, ils ne prenaient pas la carte, donc c'est vraiment l'argent. Je vous dirais que là-bas, il y a des... Tu sais, tu ne prends pas ton argent à l'aéroport, aux étages les plus passantes. Des fois, au sous-sol d'un aéroport, t'as les bureaux de change les moins chers. C'est vrai que ça vaut la peine à ce moment-là.
Et on a une autre question, en fait, pas un truc, mais vraiment une question qui est rentrée. On veut voyager en Europe pour le temps des fêtes.
Oui.
Est-ce qu'il y a des endroits moins chers qu'on peut viser?
Le temps des fêtes, honnêtement, c'est comme
c'est
la période. Oui, c'est la période la plus chère parce que tout le monde voyage dans le temps des fêtes. Là. Les aéroports sont bondés et tout. Et je vous dirais que le truc vraiment sans être une place, c'est partir le jour de Noël et revenir au jour de l'an ou un truc comme ça. Honnêtement, ça, là, c'est. Il n'y a personne qui veut partir le jour de Noël.
Parce que les gens, des fois, vont voir leur famille, donc ils veulent
ou
être à destination le 24 et le 25 décembre. Oh, c'est un bon truc.
Ouais.
Puis, ben, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus abordable en Europe ces temps-ci, que ce soit en dehors du temps des fêtes ou pas?
Le Portugal est toujours quand même pas trop cher. L'Albanie, qu'on parlait justement lors de ma dernière chronique, c'est pas mal les
deux
destinations
économiques en Europe ces
mais
temps-ci.
Faire attention, si vous n'allez pas voir de la famille en Europe, ça peut être froid aussi en décembre. Si vous pensez faire de la plage, c'est pas la meilleure période.
Daniel, Food Voyage, à quel endroit on peut te suivre?
Sur ma page Facebook, Food Voyage Daniel Conseiller JMV.
Daniel, un gros merci pour ton temps aujourd'hui.
Merci.
Au retour, petit tour de nouvelles avec Mathias Turcotte. Vous écoutez le retour de Boulevard 101 avec Mathias, oui, Antonine Nayakarini et Max aussi avec vous jusqu'à 18h.
Le retour de Boulevard.
15h22 minutes dans le retour à Boulevard 102.1. C'est 24 degrés à Québec, 29 au ressenti. On a relativement une belle journée par rapport à aux attentes qu'on avait. Là, on s'attendait à pas mal de pluie. La pluie, vous as-tu réveillé cette nuit? Moi, ça tapait dans les fenêtres, là, une pluie qui m'a réveillé.
Pas tout.
Ah, voyons donc.
Pas du tout
puis
pour moi non plus.
J'ai le sommeil fragile, mais on n'est pas dans le même quartier, peut-être que c'était plus violent ici.
À Charlebourg, là, que limite Charlebourg, le Bourgneuf, Limoilou, mettons où je suis, là, c'est une pluie dans les fenêtres à te réveiller.
Ah, ouais.
Ouais, 88-971-1021, je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui cognait dans la fenêtre, je sais pas.
Pourtant, qui te lançait des roches.
Ouais, ouais, peut-être. Je vais m'inquiéter si on n'a pas d'autres textos pour confirmer ce que j'ai entendu. Mais non, c'est ça, il a mouillé cette nuit. Bien, c'est ça, aujourd'hui, tout ça pour dire que à 24 degrés, 29 ressentis, généralement nuageux, mais des belles percées de soleil quand même persistantes, c'est quand même pas pire. Il y a des possibilités d'averses et même d'orages pour le reste de la journée. Pour ce soir et cette nuit, ça descend à 12 avec 30% de possibilités d'averses. Demain, jeudi, 21 avec 40% de possibilités d'averse. Puis après ça, on part sur tout un week-end. Vendredi, gros soleil, 26. Samedi, gros soleil, 29. Dimanche, alternance soleil-nuages et 26 degrés. Et après ça, possible retour de la pluie pour lundi. Mais après un beau week-end comme ça, moi, je suis capable de prendre un petit peu de pluie là, quand Dame Nature nous donne une belle météo pour la fin de semaine. Si le lundi est un petit peu gris, c'est pas quelque chose qui va me faire capoter outre mesure. Bon, Isabelle, étant l'ancienne Lorette, elle, de mémoire, puis oui, ça m'a réveillé aussi, mais porte de balcon ouverte, j'ai le Magnetic Magic Screen.
Ah, oui.
C'est quoi ça?
C'est comme, je pense,
ah, c'est ça qui laisse passer les chats, là, on voyait ça à TV, là.
Oui, donc c'est comme un moustiquaire en tissu, puis qui se referme automatiquement avec des petits aimants, ce qui t'évite de t'appiquer vers les moustiques toute la nuit. Solide. C'est vraiment pratique.
Bon, ben, mais au moins, là, puis il y a Vincent aussi qui est du coin de Charlebourg. Bonne pluie. Fait que je suis pas fou, c'était peut-être pas un voisin fâché qui lançait des roches dans ma fenêtre. Dans l'actualité, quand même une journée pas si mal aujourd'hui en termes d'actualité pour. Puis surtout si je compare à lundi et à mardi où j'avais de la misère à faire un bulletin de nouvelles qui avait de l'allure. Bon, à part avec les tarifs de Trump qui prenaient beaucoup de place, avec des faits divers un peu poches aussi. Aujourd'hui, dans l'actualité politique, Mathias, il y a du stock.
Bien, en général, ça roule beaucoup. On se croirait pas en vacances à construction, j'ai envie de vous dire. Je commence par contre avec un fait divers un peu poche, comme tu l'as dit, Maxime. Faut remonter à lundi soir. Je sais pas si vous vous en souvenez. Il y a eu un meurtre, en fait, deux meurtres du côté de la Côte-Nord, la Sûreté du Québec, qui avait été appelée à intervenir vers 22h15 lundi soir dans le secteur. À l'arrivée des policiers, un homme âgé de la vingtaine avait été retrouvé inanimé. Donc, l'homme qui avait été abattu. Aujourd'hui, on a eu des arrestations dans ce dossier-là. Deux adolescents de seulement 14 et 15 ans et un homme de 39 ans qui ont été formellement accusés de meurtre prémédité en lien justement avec la mort du jeune homme de lundi soir dans une résidence de Pointe aux Outardes, plus précisément. Quand même, deux adolescents de 14 et 15 ans, là, je tiens à le répéter, je ne me suis pas trompé. C'est surprenant. On n'a pas nécessairement énormément de détails. On sait que les enquêteurs faisaient leurs enquêtes pour déterminer qui avait commis ces actes-là. Bien, visiblement, le travail a mené à l'arrestation de ces trois personnes-là. Une ex-éducatrice de Sainte-Brigitte-de-Laval, Cathy Jonve, qui a été reconnue coupable d'homicide involontaire sur un bébé de 10 mois, veut porter sa cause en Cour suprême. Elle avait été condamnée à 8 ans de prison en février 2024 par la Cour du Québec. On a déterminé à l'époque que la femme, en mai 2018, avait secoué la petite Eliana Linto, ce qui lui a infligé des blessures mortelles au cerveau. Elle souhaite porter sa cause à l'instance supérieure parce que selon elle, son avocat aurait omis de présenter une preuve qui pourrait être déterminante, une déclaration vidéo d'un enfant de 5 ans enregistrée le lendemain de la mort de la petite de 10 mois. Le taux d'absentéisme au Québec il continue d'augmenter dans les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec. On est maintenant à 6,37% de taux d'absentéisme, soit une augmentation de 18% en 2 ans. Le Conseil du Trésor qui se dit préoccupé par ces données et a demandé au ministère d'agir pour réduire ce nombre. Du côté du syndicat, on explique cette hausse par notamment la charge de travail qui aurait fortement augmenté au cours des dernières années. Dossier santé numérique commence à s'installer à quelques endroits du Haut-Québec au cours des derniers mois. Puis c'est dans les établissements de la Mauricie et du Centre de Québec qu'il sera désormais plus nécessaire d'apporter sa carte d'hôpital. Ça a été annoncé par Santé Québec lundi. À partir de maintenant, on va être capable d'identifier les patients seulement avec un numéro de carte d'assurance maladie dans ces établissements-là. Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney qui a convoqué le groupe d'intervention en cas d'incident, composé de ministres et de hauts responsables, dans le but de se pencher sur la situation liée aux feux de forêt partout au Canada. Tout ça alors que la situation des feux de forêt continue de se détériorer partout au pays, entre autres en Ontario, où 12 nouveaux brasiers sont apparus. Un peu plus près de nous, on fait un petit tour en politique provinciale. Tout d'abord, un candidat libéral qui est placé dans l'embarras en raison de propos durs tenus envers certains militants péquistes en février, alors qu'il n'était toujours pas candidat libéral. C'est Michel Savard, qui est un acteur également, qui avait traité sur Facebook le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, d'un être haineux et mégalomane. Il avait renchéri en disant que ceux qui le suivent sont des petits nazis sans envergure. Michel Savard qui a présenté ses excuses aujourd'hui sur sa page Facebook et qui a avoué lui-même que d'autres de ses propos pourraient ressortir prochainement.
Ça, j'imagine que c'est dans la belle transparence libérale, là, dans la même lignée de présenter nos candidats qui ont donné à d'autres partis politiques. Ben là, lui, félicitations à lui, dit « Ouais, ça se peut que je n'aille dit d'autres niaiseries de même. »
Surprenez-vous pas.
Ça se peut que ça sorte dans les prochaines semaines, là. Je sais pas qui d'autre, il y a pu traiter de nazi ou quoi que ce soit, mais ou de quelque autre nom. J'ai hâte que ça sorte.
Le Parti libéral a quand même voulu se dissocier de ces propos-là. Le parti a toutefois dit accueillir sa démarche, ses excuses sincères et son engagement à élever le niveau de débat, ce qu'on en déduit que le Parti libéral compte garder ce candidat.
Y a-t-il des chances de passer, lui, Antonine, dans sa circonscription?
Très peu. La circonscription de Gouin appartient à Québec solidaire depuis très longtemps et appartenait au PQ avant. Là, c'est un comté montréalais. Et honnêtement, selon mes observations dans les 20 dernières années sur la scène politique, c'est justement ce genre de candidat-là qui met toujours son chef
mais,
dans le trouble.
Rendu là, t'es pas mieux de t'en dissocier? T'es pas mieux de dire, hey, au pire, on n'aura pas de candidat? Surtout en sachant que, puis là, je sais pas si ces autres niaiseries vont être pires que celles-là, mais surtout en sachant qu'il dit qu'il pourrait y en avoir d'autres, là.
Ben,
t'es pas mieux tout de suite de...
Oui, la réponse est oui. Tu tires sur le pansement d'un coup là,
non,
dans
c'est
la
ça.
Vie. Mais tu sais comment ça se passe. On dirait qu'il y a toujours un petit acharnement au début. Puis le chef veut montrer qu'il soutient ses candidats. Puis ils veulent pas toujours admettre que c'est une erreur. Il y a comme un moment où est-ce qu'on essaie de justifier en disant « Ouais, mais là... » Puis finalement, généralement, tu finis par garrocher ton candidat en dessous de l'autobus. Puis t'as trouvé un gentil staff qui va aller le remplacer.
Non, c'est ça. À suivre.
La coalition Avenir Québec est déjà en mode campagne alors que les ministres multiplient leurs annonces. Entre le 1er juillet et le 18 juillet, une compilation qui a été faite par la presse, ils ont été 4 fois plus présents que l'année dernière. C'est au total 122 apparitions que les ministres ont faites. Au cours des 3 dernières semaines, d'ailleurs, le gouvernement Fréchette qui s'est présenté dans toutes les régions administratives du Québec, sans exception.
D'ailleurs, Antonine, dans à peu près 1 heure, tu vas nous parler de Churchill Falls. La première ministre, Christine Fréchette, qui pourrait arriver avec un deal de dernière minute avec Terre-Neuve concernant toute l'histoire de Churchill Falls.
Puis c'est pas une petite entente.
Ben non, mais c'est
des milliards, majeur. C'est pour l'énergie dont on a besoin dans les prochaines années. C'est vraiment pas banal. On est le 22 juillet.
On va se questionner sur la légitimité d'une Christine Fréchette pour en arriver à ce deal-là, alors que selon les différentes projections, c'est pas elle qui va diriger le prochain gouvernement. Et il y a aussi le point qui peut être soulevé par certains que c'est même pas une première ministre qui a été élue à ce poste-là par les Québécois.
Et je termine en faisant un petit tour de tout ce qui est en lien avec les États-Unis, à commencer par le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, qui a pris la parole aujourd'hui, puis qui a annoncé que le Canada n'a pas menacé les États-Unis de représailles quelconques à la suite des menaces de droits de douane de 50%. Donc, pour ceux qui se demandaient comment le Canada allait répliquer, pour l'instant, on semble pas évaluer l'option des contre-tarifs, du moins selon les États-Unis. Également, vous soulignez que le tribunal de New York aujourd'hui a décidé que le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro, qui doit comparaître pour trafic de drogue, le fera le 1er juin 2027. Donc, cette date-là s'est fixée dans un peu moins d'un an. Il se rendra à New York pour être jugé pour trafic de drogue. Et j'en profite pour souligner que le maire de New York, Zoran Mamdani, a déclaré ne pas avoir la juridiction nécessaire pour arrêter le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cette sortie se fait après que le maire ait annoncé lors d'une entrevue au New York Times évaluer la possibilité d'arrêter le dirigeant d'Israël lors de son passage à New York en septembre prochain. Visiblement, ça ne va pas être possible, finalement.
Et Trump a dit qu'il n'y avait absolument aucune chance que ça arrive aussi. Merci,
surprise.
Mathias. Au sport, les Stars de Dallas et Jason Robertson qui se sont finalement entendus sur les termes d'un contrat d'une saison et 12 millions de dollars. L'attaquant vedette qui pourra maintenant devenir agent libre sans restriction l'été prochain. Probablement que les Stars s'achètent un peu de temps pour essayer d'échanger Jason Robertson. Dans la NBA, quelqu'un a probablement perdu sa job chez le Heat de Miami parce que la chaîne YouTube de l'organisation a momentanément affiché un live à venir titré « Conférence de presse de présentation de LeBron James ». L'affaire, c'est que LeBron James n'a pas encore signé nulle part. C'était supposé se faire à Miami, puis là, ça avorte un petit peu en raison de cette bourde-là. Il y a un porte-parole d'équipe qui a parlé d'une erreur, d'une simple préparation dans l'éventualité où LeBron James, qui est agent libre, s'entendait avec le Heat. Reste à voir dans les prochaines semaines où la légende du basket va se diriger. Pour les Blue Jays de Toronto, ça va très mal. Défaite hier de 12-2 face aux Rays de Tampa. Prochain match ce soir face à ces mêmes Rays, 19h, toujours à Toronto. Et Capitale de Québec, programme double face aux Miners de Sussex County. Premier match à 16h30 aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, on discute avec Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Le compte X du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a été hacké comment ça peut arriver ça en 2026 alors que moi-même, j'ai de la misère à me connecter à tous mes comptes.
C'est vrai.
Avec les doubles, triples authenticités, tout ça. Comment un chef de parti politique fédéral peut se faire hacker son compte X? C'est pas mal la grande question que j'ai pour Steve Waterhouse. Puis je sais qu'Antonine a une pas pire histoire de hacking à nous raconter aussi. Vous écoutez Le Retour à Boulevard à 15h34.
Le Retour, tout l'été.
15h38 minutes à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-102.1 par texto. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter via l'application mobile Boulevard 102.1 et le blvd.fm. Puis je vous donnais le numéro de texto. Bien, hâte d'avoir vos réactions dans les prochaines minutes par rapport au prochain sujet. Ça vous est-il déjà arrivé de vous faire hacker votre compte? Personnellement, je pense que ça m'est jamais arrivé. Mathias?
Non, jamais aussi.
Je sais du bois, les gars.
Antonine Iaccarini?
Oh oui.
Je sais que tu vas nous raconter une pas pire histoire dans les prochaines minutes par rapport à ça. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Il y a deux possibilités. Là. Soit il s'est vraiment mis à triper sa crypto-monnaie dans les derniers jours.
Pense pas.
Puis il en fait la grosse promotion et tout. Soit il a été hacké. Je pense que la deuxième option est peut-être un petit peu plus plausible. Pour en parler, l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, est au bout du fil. Salut Steve.
Bon après-midi.
Première question, puis c'est la première affaire que je me suis demandé quand j'ai vu ça, c'est « Hey, moi-même, j'ai de la misère à me connecter à mon Facebook, à mon Twitter, à mon Snapchat, à mon Instagram, à ce que tu veux, parce que ça me demande tout le temps un double, triple authentification, puis ça me renvoie d'un bord puis de l'autre. Comment un chef de parti politique au fédéral peut se faire hacker son compte Twitter? »
Ben, comme tu dis bien, je veux dire, c'est n'importe qui peut être victime de ce genre de stratagème-là. Et dans un cas d'un compte à haute visibilité, dans ce cas ici un chef de parti, ben c'est pas juste lui qui gère ça. Je pense même il a peut-être jamais touché à ce compte-là, c'est quelqu'un de son entourage. Et dans les équipes, ben il y a souvent une rotation. C'est pas toujours les mêmes qui travaillent sur l'entretien de ces comptes-là, la modération qu'on dit. Puis après ça, ben qui dans ce groupe-là n'aurait pas suivi les règles du jeu, puis qu'il aurait été un petit peu téméraire, disons,
ben
dans l'application des
faits. Je t'arrête tout de suite, parce que je te confirme qu'il gère son compte lui-même. Alors, il ne peut pas accuser un membre de son équipe.
Bon, ben ça réduit justement la possibilité. Mais à ce moment-là, je rectifie mon dire en disant il manque peut-être des bouts dans ses connaissances pour bien gérer. Et de cette façon-là, comme j'ai marqué sur le compte Twitter du Bloc québécois, il y a des petites formations qui se donnent pour être en mesure de prendre connaissance des mesures de sécurité à mettre en place et à entretenir par la suite.
Steve, t'en as fait de la politique. T'sais, les politiciens en général, est-ce qu'ils sont bien entourés? Est-ce qu'ils sont bien éduqués par rapport à ces risques-là, par rapport à comment se protéger?
Non et non. Parce que faut pas oublier une affaire. Un compte de médias sociaux, ce n'est pas un compte officiel. C'est un compte privé. Et les comptes officiels sont gérés par les instances gouvernementales. Le compte privé, c'est que le parti s'en sert, évidemment, pour rejoindre la population et être près des électeurs, véhiculer les idéologies, véhiculer les messages. Et l'importance de dire, ben, pourquoi qu'on porte attention à son compte qui s'est fait pirater? Ben, parce qu'il y a une influence quand même sur une grande portée de personnes. Fait que s'il génère des mauvaises informations, ça peut influencer de façon négative, peut-être l'économie, mais aussi la sécurité des gens dans certains cas. Fait que c'est pour ça qu'il faut en parler, puis il faut parler des bonnes pratiques à mettre en place pour faire à ce moment-là qu'on n'en a pas de problème. Et tu sais, Max, tu disais tantôt, pourquoi qu'on me demande toutes sortes de questions pour accéder à mes comptes, puis encore là, on met tous les médias sociaux dans le même panier aujourd'hui, ben c'est pour justement les noms d'usagers, mots de passe, qui c'est souvent des fois une adresse courriel, puis le mot de passe, mais que le mot de passe, la majorité des gens s'en sert partout, ben quand ils sont compromis une place, probablement aux autres places, ils vont être compromis aussi. Fait que c'est pour ça, c'est pour, encore une fois, donner une couche de ralentissement pour les bandits qui ne puissent pas accéder facilement s'ils ont le nom d'usager, mot de passe, qui était compromis ailleurs. Deuxièmement, qui, dans le groupe, ici, autour de la table, a son code de récupération en cas que son médias sociaux il soit barré?
On ne le dira pas en ondes. On est tous vraiment responsables, puis on est impossible à hacker. C'est ça le message qu'on veut envoyer à tous. Effectivement, on ne fait pas toujours tout ce qui est recommandé de faire, puis le jour où ça t'arrive, j'ai l'impression que c'est là que tu prends conscience du vrai danger.
C'est ça, Antonine, parce que les plateformes, ils mettent tous les moyens en place pour, encore une fois, réduire les risques que ça arrive. Mais les gens, un, ne savent même pas que ça existe. C'est pour ça que j'apporte la question. Deux, en ayant ce code de récupération, bien, vous augmentez vos chances d'être capable de remettre la main sur votre compte si jamais il est compromis. Puis comment il peut être compromis, le compte? Ça peut être un mouchard qui rentre dans votre ordinateur, qui fait la capture d'écran, qui fait la capture de ce que vous tapez au clavier, ça c'est l'extrême. Ça peut être justement quelque chose que vous avez cliqué, un code malveillant, et que ni un ni deux, bien, votre compte il était ouvert en même temps de médias sociaux, puis il était capable de mettre la main dessus. Trois, vous avez donné de l'information superflue, puis que quelqu'un à distance était capable, vous avez accepté une connexion qui rendait, qui facilitait. Il y a toutes sortes de scénarios comme ça qu'on pourrait parler le reste de l'après-midi. Mais au bas mot, il faut être prêt à faire face à si jamais ça nous arrive.
Mais la question que je me pose depuis longtemps, c'est à quoi ça sert pour les pirates, les hackers, de prendre le contrôle du compte de Yves-François Blanchet, par exemple, dans le cas qui nous occupe? Est-ce que ça leur donne vraiment quelque chose? Ils utilisent ça comme une plateforme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Ça sert à quoi?
Ben aujourd'hui, on a l'exemple avec notre sujet du jour, Coach Romy Rome. Qui est une mineuse de crypto-monnaie, bien, ils ont eu de la publicité gratuite, tout simplement. Quand que je ramène ça, par contre, à l'autre extrême du spectre, en 2015, quand que le commandement central américain s'est fait avoir au Moyen-Orient, son compte YouTube et Twitter s'est fait pirater par l'État islamique, ce qui n'est pas vrai, parce que c'est une opération russe derrière, bien, ça donnait quoi? Ça a donné un gage de publicité, encore une fois, pour la mouvance islamique, de dire, regardez, si on est fort, on était capable d'aller pirater un compte de l'armée américaine. Ça donne un petit peu une tape dans le dos pour dire « Hey, gardez ça, on est capable de faire quelque chose. » Ça donne vraiment ça. Donc, ça travaille l'ego, ça demeure à ce moment-là superficiel. Mais dans un cas, que, exemple, un compte de sécurité publique se fait pirater, bien là, ça peut mettre des vies en danger parce que c'est des fausses informations. Et dans une période électorale, c'est encore pire parce que c'est la désinformation qui va être véhiculée par le compte qui est pourtant supposément sécuritaire, qui est vu comme étant officiel, mais c'est des mauvaises intentions qui l'opèrent derrière.
Mais là, justement, Steve, là, on parle du X de M. Blanchet, puis bon, c'est plate ce qui arrive, la publication, la publicité pour ce compte-là de mineuse de crypto-monnaie. Puis, mais est-ce qu'on doit se poser des questions sur des données confidentielles qui sont des fois entre les mains de nos politiciens qui, là, pourraient devenir accessibles pour des hackers?
Bien là, à ce moment-là, on tombe dans un autre registre de risque. Parce que si des politiciens prennent de l'information privilégiée, voire sensible, puis amène ça sur une plateforme publique, non autorisée, officielle, on a un problème. Alors, pour ça, j'insistais tantôt à dire que ce sont des plateformes publiques et qu'il n'y a pas supposé d'avoir d'informations officielles gouvernementales qui est véhiculée là-dedans. Fait que c'est ça, des fois, qu'on a de la misère, les utilisateurs ont de la misère à faire parce que c'est tellement accessible aujourd'hui. Tu sais, tu rentres avec ton téléphone portable, ta tablette, dans une enceinte où ce que c'est de l'information privilégiée qui est traitée et travaillée et discutée. Normalement, ça ne devrait pas. Tu laisses ça dans la petite case en rentrant dans la salle. Et là, tout le monde jase à tête reposée, on va le dire comme ça, des sujets. Puis il n'y a pas d'échange avec des systèmes d'information qui ne sont pas autorisés. Mais c'est ça qui est l'enjeu. Donc, il y a une discipline de travail, une culture de la sécurité d'information qui doit être déployée, faire respecter. Donc, une discipline de travail à adopter. Et ce, dans tous les paliers de gouvernance et même dans les entreprises privées. Il veut dire, si vous êtes une entreprise bien établie, que là, vous avez un projet et qui va aller faire en sorte que c'est un projet qui va avoir des retombées de millions, voire de milliards de dollars, mais vous laissez Facebook, TikTok allumer dans cette réunion-là, désolé, et vous courez à votre perte.
On court après le trouble. Là, pour Yves-François Blanchet, aujourd'hui, là, le compte du Bloc a publié un message disant qu'on était en contact avec X, qu'on allait essayer de régler le problème. Est-ce que c'est assez facile de récupérer un compte qui a été hacké comme ça? Puis est-ce que depuis que c'est Elon Musk qui a repris la plateforme X, est-ce que ça a ajouté un niveau de difficulté supplémentaire pour avoir du service quand on a un problème de piratage comme ça?
Bonne question, Antonine, parce que l'influence de M. Musk sur le sort des milliards de comptes qui existent dans Twitter, il me semble que c'est dans le milliard, j'en serais surpris. Par contre, comme je disais tout à l'heure, ils mettent ces plateformes-là en place, les moyens pour être en mesure, automatiquement, sans intervention humaine. Je ne sais pas si tu as déjà regardé, mais il n'y a pas de numéro 1-800 Twitter en quelque part. Tu sais.
Pas évident, hein?
Non, exactement. Fait que ce sont tous des processus automatisés et que, surtout sur Facebook, c'est encore plus complexe, mais qu'il faut de convaincre la machine qu'on est bel et bien qui qu'on est dans le monde électronique. Et c'est là qu'il y a toute la distinction. Puis quand on parlait de code de récupération tout à l'heure, bien, c'est un moyen parmi d'autres de dire « Hey, je suis bel et bien la personne qui est le détenteur du compte ». Fait que quand il arrive des compromissions, ben c'est d'avoir de faire d'amener des preuves et de faire en sorte de plaider notre argument auprès de l'organisation dans un mécanisme des fois qui est très opaque de faire valoir nos doléances et dire hey, c'est bel et bien moi, donnez-moi accès. J'en connais qui n'ont jamais eu accès, j'en connais qui ont été capables de récupérer leurs accès avec quelques demandes et quelques efforts, mais c'est vraiment pas clean, dans le sens, c'est pas transparent la façon que ça se passe, que aussitôt qu'on fait A, il va arriver B, parce que mettez-vous dans la peau du bandit, le bandit n'importe quel peut se faire passer pour vous, faire les mêmes démarches, et c'est ça qui fait en sorte que l'odieux de déterminer qui est vrai ou pas, mais ça revient à la plateforme.
D'ailleurs, chez Antonine, t'as une pas pire histoire de comment t'as réussi il y a quelques années à récupérer. Ben, allons-y, Antonine, rapidement bon, ton histoire.
C'est un grand traumatisme, puis Steve, il faut pas me juger, OK, parce que j'ai pris certains risques et j'en suis pas fière. C'était genre pendant la pandémie, moi j'avais mon compte Twitter, 15 000 abonnés à peu près, j'y tenais quand même à ce compte-là. Ça a été une mauvaise nouvelle quand je me suis rendu compte que j'avais plus accès à mon compte et que c'est quelqu'un d'autre qui avait pris le contrôle. Bon, pas de publication sur des crypto-monnaies ou quoi que ce soit, c'est simplement que j'avais beaucoup de tweets qui avaient disparu puis que j'étais plus capable de me connecter. Puis visiblement, il y avait quelqu'un qui avait pris le contrôle du compte, qui n'envoyait pas de message à personne. Donc là, la panique me prend parce que j'ai... Puis en plus, je travaille dans des cabinets politiques à l'époque. Puis je me dis, est-ce que mon compte va se mettre à envoyer des messages, faire des choses gênantes, etc. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'écrire au support technique de Twitter. Pas eu de réponse pendant plusieurs heures. Moi, je suis dans l'angoisse la plus totale. Et là, j'ouvre un deuxième compte Twitter pour avertir l'univers que mon autre compte a été hacké. Et il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit « Je connais quelqu'un qui peut t'aider à récupérer ton compte. » C'est un hacker. Il se trouve en Floride et il m'a aidé avec un problème similaire. Il me donne son contact. Je contacte la personne. Pour 500$ US, il me dit « Oui, je suis capable de récupérer ton compte. » Fait que je dis « OK, c'est beau. » Entre-temps, Twitter m'a répondu, contre toute attente, qu'on m'avait dit « Ils te répondront jamais, t'as pas un compte vérifié, t'as pas 100 000 abonnés plus, oublie ça. » Il me redonne accès à mon compte. Et là, je me retourne vers le hacker et je dis « Hey, finalement, tout est beau. » Puis là, il me dit « Ouais, mais moi, j'ai commencé à travailler, fait que je veux que tu me payes pareil. » Fait que là, je suis comme « OK, je comprends. » Puis là, je me dis « Je suis un peu dans le trou. » Puis en plus, c'est un hacker. Genre, il peut me voler ma vie. Tu sais, je veux dire, j'y ai donné mes accès à mes comptes. Ça va pas du tout. Là, je capote un peu. Et là, il me dit « Non, mais c'est correct. » Il dit « T'as pas besoin de me transférer l'argent, mais à place, j'aimerais ça que tu investisses avec moi dans du Forex. »
Oh.
Puis là, je me mets à capoter. Là, j'étais comme « Non, c'est ça. Ça sera pas possible. » Et pendant des semaines et des semaines, je me disais « Ce gars-là, mes informations, peut prendre mon compte Twitter n'importe quand, peut décider que je ne l'ai pas payé finalement puis qu'il n'est pas content. Il m'a ajouté sur Instagram, il m'a ajouté sur Facebook. J'ai tellement vécu un moment d'angoisse à ne pas faire. Voilà. Je ne sais pas, Steve, que tu penses de la manière dont je me suis comportée avec mon problème.
Bien, Antonine, en même temps, tu n'es pas la seule.
Et merci.
C'est facile de tomber dans le piège quand que on cherche solution. Et qu'en même temps, ils donnent des informations rassurantes, qu'on croit que ça provient de la bonne source. Mais les fraudeurs le savent, et c'est comme ça qu'ils sont en mesure d'appliquer leur stratagème. Et dans ce cas-ci, ben ils doublent un peu la rançon, dans le sens qu'ils sont capables d'avoir l'accès à l'information supplémentaire. Fait que c'est pas... Il y a des gens, je veux dire, même les plus expérimentés qui se font avoir dans ce sens-là, parce que, justement, ils croient être tout parfait organisé. C'est une des choses que, lorsqu'on a un compte avec une certaine visibilité, donc on veut pas perdre, surtout, qu'il faut faire une certaine vérification de sécurité, voir si tous les paramètres sont corrects. Il n'a pas négligé, Max, malheureusement, c'est une obligation aujourd'hui en 2026, le deuxième facteur d'authentification. Puis, autant que possible, ne pas envoyer ça par message texte sur SMS, parce que si le bandit, les pirates, compromettent le cellulaire, ben ils vont avoir le code de récupération, ils vont aller sur le cellulaire. Fait que c'est toujours mieux d'avoir une application qui est, exemple, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, qui fait le job d'avoir un numéro affiché qui est bon pour 30 secondes.
Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, super intéressant et toujours un plaisir.
Certainement, passez une belle journée.
Salut. À la prochaine, Steve. 15h53 minutes. dans... Puis c'est drôle, j'allais dire, depuis le début, je dis le retour, ça va bien, mais là, parce que j'ai un invité régulier du Point de Max, j'allais dire le Point de Max, dans le retour à Boulevard 101 jusqu'à 18h, Mathias Turcotte qui est là aux nouvelles, Antonine Iaccarini. Bon, je suis là également en remplacement d'Audrey aujourd'hui qui a eu un petit pépin de santé qui sera de retour, là, normalement, demain. Et ben, c'est ça, vous l'entendez de temps en temps dans le Point de Max, vous le voyez peut-être passer souvent dans, sur vos réseaux sociaux. Éric de Pop Culture Québec. Salut Eric.
Salut, ça va bien?
Yes, ça va très bien, toi?
Yes.
C'est drôle parce que là, cette semaine, il annonçait pas super beau, il annonçait de la pluie. Finalement, ça s'est éclairé. Là, je viens même de rafraîchir ma page. Même lundi prochain, il était supposé mouiller. Finalement, il fait beau. Puis c'est drôle parce que l'été, oui, des fois, t'as la tendance d'aller au cinéma quand il fait lettre, puis mais il y a le contraire aussi. Il y en a qui ont pas l'air clim à la maison nécessairement, que quand il fait, mettons, 28, puis avec l'humidex, ça monte à 35, 36, 37 ressentis. Le cinéma peut être tentant comme refuge avec l'air clim. Fait que je pense que la chronique est quand même d'actualité. On se parle de sorties streaming et cinéma, Eric. Puis je sais qu'on commence, fort avec The Odyssey. Puis je sais aussi que Mathias est allé le voir la semaine passée, puis que Triperel,
ouais, incroyable.
C'est un grand succès.
Oui, oui, c'est le phénomène au cinéma actuellement. En fait, d'ici, on l'attendait depuis qu'il a été annoncé il y a plusieurs années. Puis ça s'est tiré d'un livre qui est très populaire dans la littérature. Écoute, ça fait 3000 ans que d'Odyssée a été écrit. Techniquement, c'est un poème de l'auteur Homer qui a voyagé à travers le temps, à travers multiples traductions en français, en anglais. L'histoire a été interprétée au fil du temps, on va se l'avouer, parce que les traductions ne sont pas toujours exactes. Puis le langage de l'époque, il n'est pas accurate. Il n'y a personne qui peut le traduire exactement. Mais le film en tant que tel... moi, j'ai lu le livre, le poème, puis c'est quand même quelque chose qui est très fidèle à quelques interprétations, surtout au niveau du casting. C'est pas mal le meilleur film qui est sorti cette année. Moi, c'est devenu un de mes films préférés quand je l'ai vu, ever, avec Project and Mary qui est sorti plus tôt cette année aussi, qui est dans ces rangs-là. Puis c'est surtout au niveau, en fait, je pense que c'est des films qui se feront plus dans un futur proche au niveau des plans. C'est tellement des films qui sont grandioses, c'est tourné dans plusieurs pays, tout est tourné, je veux dire, tous les plans sont vraiment grandioses, autant les plans en mer, etc. Puis c'est un film fait pour qui a été tourné complètement caméra IMAX.
Ça, c'est dans les premières fois qu'on fait
c'est ça? C'est le premier film tourné complètement avec une caméra IMAX 70 mm. À Québec, on n'a pas le format 70 mm, malheureusement. Il est juste disponible au cinéma Banque Scotia à Montréal. Mais quand même, je l'ai vu en IMAX à Québec. Puis ça valait quand même la peine pour avoir... L'image est quand même très grande. Puis tu deviens enveloppé un peu par ces plans-là en haute mer, en bateau, qui ont été filmés complètement en mer, comme on dit. Fait que c'est très impressionnant. Puis il n'y a pas d'autres films présentement ou cette année qui égale ça au niveau de grandeur.
Le public pour The Odyssey, tu sais, pour les enfants, c'est pas vraiment... Tu sais, à partir de quel âge ça peut être intéressant?
Ben, je pense que c'est vraiment un 13 ans et plus. C'est un film de 3 heures en partant.
Ah,
là,
ouais,
fait
okay,
que
ouais,
t'as bien, amener des enfants là, c'est un peu compliqué. Quelques scènes d'horreur aussi avec des monstres, vu que c'est un récit fantastique, c'est un récit historique. Fait que c'est un peu complexe amener des enfants. Ils vont trouver le temps long. Puis il y a aussi quelques moments qui sont plus lents malgré le fait que c'est quand même assez grandiose.
Ben, parlant d'enfants, ben, le prochain film est beaucoup plus approprié. Le film Moana qui est au cinéma.
C'est Moana en live action cette fois-ci.
Ah ouais.
Parce que Moana est sorti il y a 10 ans, l'œuvre originale. Mais Disney aime bien ça, refaire ses films avec des humains en fait. On a amené Dwayne The Rock Johnson,
qui était la nouvelle mode, là.
L'argument numéro un pour voir ce film-là. Mais malheureusement, c'est pas un très grand succès, Moana live action. Surtout du fait que ça fait 10 ans que le premier est sorti. C'est pas, 10 ans, ça peut paraître long pour le commun des mortels. Mais pour un film comme ça, Moana, qui a marqué vraiment les gens, puis qui ont même sorti une suite il y a 2 ans, que c'est Moana 2 qui est moins plaisante, comme on dit, le public n'est pas... Il va pas être porté à revoir un film qu'ils ont déjà vu il y a 10 ans environ. Puis au niveau des qualités du film, c'est beaucoup moins beau qu'on regarde, mettons, juste la bande-annonce. Moana, l'animé était très coloré, tandis que Moana live action est plus terne et plus jaune. Puis The Rock est l'argument numéro 1. Il est bon, mais le prime de Dwayne The Rock Johnson, il était il y a 10 ans. Les gens vont plus se déplacer, acheter des billets pour voir ces films, malheureusement. Puis, il joue toujours le même rôle, dans un sens. C'est lui qui double Maui dans l'anime. Fait qu'ils l'ont ramené en espérant que le hype revienne. mais c'est le même film, mais avec des humains, fait qu'il y a peu d'intérêt de voir ce film-là si vous avez déjà vu celui de 2016. Puis au pire, il est disponible sur Disney+. Fait que pas obligé d'aller au cinéma pour ça.
Toujours au cinéma, puis là, je sais pas si c'est un film qui s'adresse à qui, mais avec le titre, je me dis que c'est peut-être pas un film pour enfants. Evil Dead Burn.
Evil Dead Burn, ouais, on change un peu de registre. Là, on tombe dans l'horreur. Evil Dead étant une série, une franchise classique d'horreur qui a commencé dans les années 80. Puis là, ils ont rebooté ça il y a environ 10 ans pour faire des récits plus modernes. Puis Evil Dead Burn, c'est l'histoire tient sur deux lignes. C'est une fille qui va chez ses beaux-parents, ils tombent infectés, puis ils deviennent un peu des zombies. Puis après ça, c'est des histoires d'horreur, des scènes d'horreur qui se multiplient. Puis la force de ce film-là, moi j'ai adoré. J'aime ce genre de film-là parce que c'est très graphique. Ça nous impressionnait avec des morts qui sont, impressionnantes. Puis c'est vraiment les scènes. On prend un réalisateur français, il l'a amené à Hollywood, qui a connu un énorme succès avec son film Vermine en France. Puis, ils ont ramené son style dans Evil Dead, puis ça donne de quoi de vraiment malade. Même si l'histoire tient sur trois lignes, sur trois feuilles, comme on dit, les morts sont vraiment impressionnantes. Les scènes, la mise en scène, les scènes d'action, la caméra voyage vraiment rapidement. Ça vaut la peine juste de voir, juste pour la qualité technique du film.
Les petits personnages des Minions sont devenus iconiques au fil du temps. Nouveau film, Les Minions et les Monstres. Est-ce que ça a répondu aux attentes?
Je suis allé à ce film-là à reculons. Je suis vraiment pas un fan des Minions en tant que tel. Je trouve que les films sont très juvénile, très facile au niveau de l'humour. Fait qu'en allant là, j'étais comme « OK, ça sera pas bon, mais au moins, je vais l'avoir vu. » Je vais pas pouvoir le critiquer, mais j'étais vraiment surpris. C'est un des films d'animation préférés de l'année. Parce que Les Minions et les Monstres, encore une fois, l'histoire est très, très simple. Les Minions réussissent à aller à Hollywood, veulent faire un film, puis recherchent des monstres. C'est ça l'histoire. Mais on met plein de références au cinéma dans ce film-là. Comme on reproduit des scènes dans des vieux films.
Des films classiques qu'on a connus.
C'est ça.
J'y vais vendredi, donc je suis contente de savoir que
c'est très
un bon,
bon
moment qu'on
c'est
passe
très
avec
bon.
Nos enfants.
Bon, il y a plein de caméos, de réalisateurs, d'acteurs qui apparaissent dans le film. Puis, moi étant un adulte, j'ai trouvé que les blagues qui étaient plus orientées cinéma, étaient un fan de cinéma en plus, on dirait que ce film était fait pour moi. J'ai adoré de A à Z. C'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est assez
c'est
pour dire que c'est le meilleur film des Minions que j'ai vu. Puis okay. Ça, c'est un accomplissement quand même notable, vu que je suis arrivé là en pensant que ça allait être un mauvais film.
Tu voulais finir en nous parlant d'un film. C'est drôle parce que je n'ai tellement parlé dans les dernières, quasiment dernières semaines. Ça fait quoi, une semaine ou deux facile que je l'ai vu. Voicemails for Isabelle.
J'ai vu ta story, en fait, puis c'est ça qui me l'a fait écouter.
As-tu autant braillé que moi ou c'est moi le problème?
J'ai pas braillé, mais j'ai été touché. Premièrement, ça comme... Tu sais, les rom-coms comme ça, c'est très cliché. Je m'attendais à un film Hallmark un peu, là, qu'on voit à Noël, puis j'ai été surpris finalement. Tu sais, sans vouloir divulgâcher quoi que ce soit, la sœur de la fille a la fibrose kystique du personnage principal, puis malheureusement...
Elle décède.
Puis pour comme se remémorer ses souvenirs, il envoie des messages vocaux sur son ancien numéro de téléphone cellulaire, puis comme dans la vraie vie, ben, le numéro devient réassigné à quelqu'un d'autre après un certain temps. Puis l'autre personne écoutait secrètement les messages, je recherchais ses réseaux sociaux pour finalement s'arranger pour la rencontrer dans la vraie vie de façon artificielle. Puis après ça, ben, il y a plusieurs déroulements qui arrivent. Mais ce qui m'a surpris, c'est que justement, c'est très moderne en tant que tel. C'est plus que deux personnes dans une petite ville se rencontrent, puis après ça, il y a des histoires qui arrivent. Le fait que, via les voicemails, que deux personnes se rencontrent, j'ai trouvé ça un peu, en même temps, du côté négatif, c'est un peu du stalking, on s'entend. Là,
c'est un peu bizarre
dans la vraie vie si ça arrive. Je pense
c'est
pas
très
que ça,
bizarre.
C'est très, très bizarre que la personne voyage pour que rencontrer la fille de façon artificielle. Mais le côté sentimental, au niveau de la mort de la sœur, de A à Z, avec la scène finale qui est exceptionnelle.
Alors, repars-moi pas sa scène finale,
tabarouette. Pas mal, je pense que pour ça que le film a fait discuter beaucoup. Mais ce côté sentimental-là, habituellement, on le voit pas dans les rom-coms plus traditionnels. Mm. Puis moi, ça m'a quand même... J'ai pas trouvé que c'est un film exceptionnel au final. C'est un très bon film, mais non, je m'en souviens encore aujourd'hui, je suis capable d'en parler, puis ça veut dire que ça m'a quand même marqué un peu.
Éric de Pop Culture Québec, je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez faire des découvertes, avoir des critiques de films, souvent assez très très rapidement avant que ce soit sorti, même des fois, rapidement après que ce soit sorti, des fois même avant,
fois
que,
les,
avant que les films sortent. Ouais. Fait que Éric de Pop Culture Québec, merci beaucoup.
Merci.
Au retour, on va parler politique, on va parler économie aussi avec le vice-président affaires publiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Mathieu Lavigne. À peu près 48 heures après les nouvelles annonces de tarifs de Donald Trump, comment on se sent sur le terrain? Est-ce que l'incertitude nous fait encore bien peur? Des questions qu'on aura pour M. Lavigne.
Pendant les vacances de la construction.